Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La semaine dernière, nous avons examiné la lettre que l'apôtre Jude avait envoyée aux chrétiens pour qu'ils soutiennent et combattent pour la foi que Dieu a donnée une fois pour toutes à ceux qui lui appartiennent, qui sont véritablement disciples du Christ, qui ne se laissent pas entraîner dans l'erreur et restent fidèles à Christ et à son enseignement qui est décrit dans les Écritures. L'Église était en danger, car des personnes y propageaient des enseignements contraires à ceux du Christ. Quelle est cette foi mentionnée par l'apôtre Jude? Il s'agit des croyances et des pratiques transmises par les prophètes et par les apôtres. Il s'agit de tout ce qui doit être observé, mis en pratique par le véritable chrétien. On me dit assez souvent, « Mais n'adorons-nous pas tous le même Dieu ? » Qu'en est-il au juste ? Pourquoi se représenter Dieu cloué sur une croix, alors qu'il est ressuscité et monté au ciel ? Sa description nous est donnée par l'apôtre Jean dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Pourquoi voir Dieu comme une trinité, alors que l'Esprit Saint est la puissance, la pensée de Dieu? Pourquoi croire que l'Éternel de l'Ancien Testament est le Père, alors que la Bible démontre que c'est lui qui devint le Christ? Pourquoi ces enseignements si différents? Et enfin, pourquoi la réaction vigoureuse de Jude? Parce que les enseignements qui menaçaient l'Église à son époque étaient bel et bien réels et que rares sont ceux qui se mettent à la recherche de la vérité. Faut-il s'étonner de ce que Jésus a déclaré? Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font ce que veut mon Père qui est dans les cieux. Quand viendra le jour du jugement, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons transmis en ton nom des messages reçus de Dieu. Nous avons chassé en ton nom des esprits mauvais. Nous avons accompli en ton nom de nombreux miracles. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Comprenez que la vérité a une grande importance aux yeux de Dieu. La recherchez-vous ou préférez-vous suivre ce que l'on vous enseigne sans vous soucier du reste? Depuis plus de 1900 ans que Jude a écrit son épître, l'apostasie n'a cessé de submerger l'Église. De nombreux enseignements originaux du Christ et des apôtres ont été déformés et remplacés par des coutumes et des doctrines émanant des religions païennes. Pour nous aussi, il est donc grand temps de retourner à la foi que Dieu a donnée une fois pour toutes. La seule façon d'y arriver est de vérifier dans les Écritures si nos croyances sont conformes à cette seule vérité. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où l'âme et l'esprit se rencontrent, jusqu'au point où les jointures et la moelle se touchent. Elle juge les désirs et les pensées du cœur de l'homme. Il n'est rien qui puisse être caché à Dieu. Tout, dans l'ensemble de la création, se trouve à nu et à découvert devant ses yeux, et c'est à lui que nous devons tous rendre compte. » Cette épée à deux tranchants est encore à notre disposition aujourd'hui. Elle nous aide à reconnaître les fausses doctrines et à reprendre la bonne direction. Elle nous enseigne cette foi, cette façon de vivre que Dieu a donnée une fois pour toutes à tous ceux qui lui appartiennent. Beaucoup sont persuadés être dans la vérité. Pour eux, ce sont les autres qui sont dans l'erreur. Mais avez-vous prouvé la légitimité de vos croyances? La plupart du temps, la réponse est négative. On va au culte le dimanche par habitude. Le fait de se rendre dans telle église ou dans tel temple donne à beaucoup le sentiment d'avoir accompli son devoir envers Dieu. Mais êtes-vous certain que Dieu veut vous voir aller là où vous allez? Savez-vous ce qu'il attend de vous? Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que l'Église que le Christ a bâtie peut être divisée et composée de ces nombreux différents groupes, de toutes ces sectes et dénominations aux enseignements si différents? Seule la Bible peut vous aider à trouver la réponse. Mais cette réponse vous intéresse-t-elle vraiment? Il existe aujourd'hui des centaines de dénominations chrétiennes. Toutes prétendent faire partie du corps du Christ. Prenez la peine de faire la liste de tous les lieux de culte dans votre ville. Peut-on enseigner la vérité et rien que la vérité au milieu de tant de croyances si variables, si différentes et si incompatibles? Pourquoi fréquentez-vous telle église alors que votre voisin, lui, en fréquente une autre? L'immortalité de l'âme est une doctrine si répandue que les gens supposent qu'à leur mort, ils iront soit au ciel ou en enfer. On leur dit que, pour aller du bon côté, il leur suffit d'accepter le Christ comme leur sauveur. Mais si le ciel est notre destinée, pourquoi la Bible enseigne-t-elle une résurrection au moment du retour du Christ? En attendant cette résurrection, où va votre âme? Accepter purement et simplement le Christ, est-ce vraiment tout ce que Dieu attend de l'homme? Celui qui demande si toutes ces dénominations peuvent avoir raison devrait se demander si toutes ces églises peuvent avoir tort. Il est facile de répondre à la question. Peuvent-elles toutes avoir raison? Ce ne peut être le cas, car si l'une d'elles est dans la vérité, alors automatiquement toutes les autres sont dans l'erreur. Le Christ n'est pas l'auteur de la confusion. En apprenant la confusion qui s'implantait dans la congrégation de Corinthe, Paul posa la question « Christ est-il divisé ?» Bien entendu, il sous-entendait une réponse négative. L'Église de Dieu ne peut pas être divisée. Voyons ce que l'apôtre Paul écrit. « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, autrement dit par votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, mais Père des véritables chrétiens, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Pour bien comprendre ce passage, nous devons lire un autre extrait des écrits de l'apôtre Paul. « Car si quelqu'un vient prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Et au sujet de ceux qui se présentent pour annoncer un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile, Paul ajoute « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Après avoir écrit aux Éphésiens qu'il n'y avait qu'un seul corps, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens « Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et que tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. » Et pour qu'on ne puisse confondre les véritables chrétiens avec les différentes dénominations ayant tant d'enseignements variés et incompatibles, il ajoute « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. » Aux Romains, l'apôtre Paul écrit « Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Les membres du corps du Christ sont un. Ils sont un en esprit, un en réelle unité et aussi en harmonie. » Voyons différents passages dans lesquels l'apôtre Paul confirme que le Christ est la tête du corps de l'Église. Paul écrit « de l'Église et non des Églises », car dans le cas contraire, Christ serait divisé, mais il ne l'est pas. L'apôtre Paul écrit « il est la tête du corps de l'Église. Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église » qui est son corps. N'est-ce pas suffisamment clair? Comment l'Église de Dieu peut-elle avoir un même esprit? Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Alors, pourquoi toutes ces dénominations, toutes ces croyances et pratiques différentes dans un monde qui se dit chrétien, disciple du Christ? Christ est-il divisé? L'Église bâtie par le Christ ne peut avoir qu'une seule foi. Elle doit défendre cette foi. elles forment un seul corps qui, s'il est participant du même esprit et se base sur les Écritures, ne peut être divisé par de nombreuses croyances doctrinales. Comprenez donc, comme l'apôtre Pierre le déclare dans le livre des Actes, qu'une dénomination qui n'enseigne pas l'obéissance complète, la soumission totale à Dieu et à sa parole, n'a pas reçu le Saint-Esprit et n'est pas en mesure de le transmettre. L'Église de Dieu ne peut avoir qu'une foi, tous ses membres étant en parfaite harmonie de croyances et de pratiques. L'apôtre Paul rappelle qu'il avait persécuté les chrétiens, mais il ajoute qu'il annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Il parcourait les villes de Lystre, Icône et Antioche, les exhortant à persévérer dans la foi. Il parle des églises qui se fortifiaient dans la foi. L'expression « une foi » ou encore le terme « la foi » se rapporte à l'ensemble de toutes les doctrines, à la totalité des vérités bibliques, qui doivent faire partie de la véritable religion chrétienne. La foi est l'harmonie dans les croyances et dans les pratiques religieuses mises en application par un seul corps, qui est celui de l'Église bâtie par le Christ. Si une de vos croyances est en contradiction avec les Écritures, avec les enseignements du Christ, alors elle est en opposition avec la vérité, et vous avez été conduit dans l'erreur. L'apôtre Jean a écrit « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ». Enfin, dans l'Église que Dieu a bâtie, il ne peut y avoir qu'un seul baptême qui soit valable et autorisé. C'est celui qui est décrit dans les Écritures et qui est soumis à certaines conditions. Dans le monde traditionnel chrétien, on baptise des enfants quelques jours après leur naissance, ou on baptise des adultes dès qu'ils ont donné leur corps au Seigneur. Il y a les baptêmes par ablution, par aspersion ou par immersion. Qu'en dit la Bible ? Le mot baptême dérive du mot grec « baptismos », et il signifie « immersion ou action de plongée ». Le baptême doit donc se faire par immersion. Jean-Baptiste baptisait à Énon parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Les conditions pour être baptisé sont mentionnées par l'apôtre Pierre. « Repentez-vous donc, dit-il, autrement dit, reconnaissez vos péchés, vos transgressions de la loi, et convertissez-vous, soit adoptez un nouveau mode de vie, vivez comme le Christ a vécu. » Et enfin, il ajoute « Soyez baptisés ». Si quelqu'un demande le baptême et continue à rejeter la loi divine, il continue à vivre dans le péché. Sa repentance est nulle et il ne peut recevoir le Saint-Esprit, car Dieu ne le donne qu'à celui qui lui obéit. Le Saint-Esprit est transmis par imposition des mains. Vous pouvez maintenant mieux comprendre pourquoi l'apôtre Jude a écrit « Je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun ». Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Cette foi qui doit encore être défendue aujourd'hui et qui reste immuable est l'ensemble des croyances et des pratiques originales qui doivent toujours être observées par le véritable chrétien.